Gloire à Dieu, nous continuons notre étude de Béréen l'explorateur. Nous en sommes au livre de Psaumes et nous nous étions arrêtés au psaume messianique 16. Le psaume 16, un psaume messianique, un psaume qui parle de Jésus avant le temps. C'est ça les psaumes messianiques, puisque David était aussi un prophète. Donc il recevait des messages de Dieu par rapport à la venue de Christ. Comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, c'est l'annonce de Jésus, le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Au fait, toutes les prophéties ont pour objectif Jésus. C'est pourquoi quand on témoigne de Jésus, on est dans l'esprit de la prophétie. Donc on annonce aux gens ce qui est à venir. Qu'est-ce qui est à venir? C'est le règne de Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Voilà. Donc nous lisons maintenant le psaume 17. Le psaume 17 qui nous parle de la face de Dieu à la fin. Psaume 17. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Il nous épie pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel. Marche à sa rencontre, à la rencontre du méchant. Renverse-le à la rencontre du lion. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voilà, donc moi j'ai intitulé ça « La face de Dieu », mais bon, dans les Bibles, dans nos Bibles, c'est écrit « Le juste délivré du méchant ». Voilà, chacun est attaché à un point qu'il trouve important pour donner un titre. Et le thème de la délivrance des méchants, ça revient souvent dans les psaumes. Donc on va retrouver ça. Pour comprendre ça, il faut travailler pour le Seigneur à un certain niveau. Quand on travaille pour le Seigneur à un certain niveau, c'est là qu'on réalise la quantité de méchants qui peuvent attaquer un enfant de Dieu. Mais à un faible niveau, puisqu'on ne dérange pas le diable, on ne va pas réaliser ça. Mais quand tu commences vraiment à t'engager sérieusement pour Dieu, c'est là que tu te rends compte de la quantité d'ennemis qu'il peut y avoir. Même pour le chrétien qui paraît juste chrétien comme ça, il y a déjà une grande quantité d'ennemis. La différence, c'est que lui, il ne sent pas toujours ça. Puisque Jésus nous a dit ceci, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ça veut dire que les loups sont plus nombreux que les brebis. C'est ça la réalité du chrétien. Mais on ne sent pas toujours ça parce qu'ils ne veulent pas non plus se montrer très tôt pour activer en nous la machine à combattre. Ils veulent nous endormir dans un premier temps. Mais quand on est réveillé maintenant et qu'on travaille, on a des projets avec Dieu, on fait des choses avec Dieu, c'est là qu'on se rend compte de la grande quantité. Et on est même dépassé. On ne comprend pas ce qui peut nous arriver. Mais que vous preniez l'Ancien Testament, que vous preniez le Nouveau Testament, tous les serviteurs qui travaillent à une certaine dimension avec Dieu parlent de la grande quantité de méchants. Vous prenez l'apôtre Paul, il en parle à plusieurs reprises. Il dit, j'ai eu à faire face à toutes sortes de choses, à des faux frères, à des séditions, à des... Il a connu tout cela. Jésus a été attaqué tous les jours, on l'appelle homme de douleur. C'est une réalité, donc c'est pourquoi David, vu sa position, que ce soit sa position physique de roi, sa position spirituelle aussi de roi en même temps, sa position de prophète, sa position de l'un des ancêtres préférés de Jésus, ben, ça faisait de lui une cible de tous les jours des forces de ténèbres. C'est une réalité. Et c'est pourquoi ce thème revient souvent. Ça revient souvent. Et nous voyons que au verset 3, il dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » Est-ce que ça veut dire que David était sans faute, sans défaut? Non, nous connaissons certains des péchés qu'il a commis. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire aux gens, la Bible répond à la Bible. Quand il faut lire un texte dans son contexte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire la suite. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Donc il veut dire que tel qu'il est dans son cœur, c'est tel qu'il s'exprime, qu'il vit aussi. Il n'a pas une vie d'hypocrisie, d'hypocrite. Il vit ce qu'il est dans son cœur. C'est pourquoi il dit, tu ne trouveras rien, parce que ce que je suis, je l'exprime, je suis transparent. Donc David veut parler là de la transparence, il ne veut pas parler de la perfection de l'être humain, il veut parler de la transparence, je suis ce que j'exprime, je ne suis pas faux. Tel que je te parle, tel que je m'exprime, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est une des luttes de l'être humain sur terre. Être à l'extérieur, c'est qu'on est à l'intérieur. Il y a le péché que Jésus a le plus condamné, c'est l'hypocrisie. Plus que tout. Diabolos, diable veut dire menteur, donc hypocrite en quelque sorte. C'est vraiment, quand vous lisez l'évangile, le péché que Jésus attaque le plus, c'est l'hypocrisie. Être à l'extérieur, montrer à l'extérieur ce qu'on n'est pas à l'intérieur. Dieu n'aime pas ça, la duplicité. C'est pire que tout. Et c'est pourquoi David dit de ce côté-là, je suis sans reproche, je manifeste ce que je suis réellement à l'intérieur. Je ne prépare pas de coups bas ni de coups fourrés. Je suis ce que je manifeste. C'est très important, bien-aimé. Hein? Il y a des hommes qui sont parfois dans la mafia, dans le vol, dans tout ce qu'on veut, mais qui sont vrais. C'est contradictoire. Hein? Ils sont vrais. Donc, ils cachent pas ce qu'ils font, c'est clair, ils veulent ça, ils manifestent ça. C'est des gens comme ça, lorsqu'ils reçoivent l'évangile, ils deviennent de vrais serviteurs de Dieu. parce qu'ils sont vrais. Ce qui n'est pas bon, c'est le double jeu. Et parfois, tu te trouves devant Dieu, tu veux prier comme tu n'es pas dans ton, tu n'es pas en réalité. En réalité, tu es en colère, mais tu pries comme si tu étais dans la joie. Tu pries comme si tu avais confiance en Dieu alors que tu as des doutes. Alors qu'il faut juste lui dire, Seigneur, j'ai des doutes, aide-moi à, voilà, à changer, à récupérer la foi. Voilà. Il faut être sincère, il faut être vrai. C'est ce que David dit quand il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Donc il n'y a pas de duplicité, il est ce qu'il vit. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Donc il marche selon la logique divine. Voilà, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, Dieu sauve les gens qui acceptent, qui sont faibles et qui cherchent son aide. Voilà, ceux qui cherchent un refuge. Mais si tu veux te battre par tes propres efforts, tu auras la mauvaise expérience de la fatigue, peut-être de la dépression. Parce que tu veux t'en sortir par toi-même. Mais ceux qui cherchent un refuge, Dieu les aide. Verset 8, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Voilà, ça doit être le souhait de tout enfant de Dieu, d'être comme la prunelle de l'œil du Seigneur. Ça veut dire que pour qu'on te touche, on doit d'abord le toucher lui-même. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, c'est vrai. Le diable peut être vraiment, vraiment acharné. Acharné, et c'est pourquoi on appelait Jésus homme de douleur, parce que chaque jour, il y avait un problème. Chaque jour, il y avait un problème. Et quand on travaille pour le Seigneur à une certaine dimension, eh bien, chaque jour amène un lot de problèmes. Mais où est Dieu? Ben, Dieu est là. Il est là, donc on va le voir à la fin. Il est là, il finit toujours par triompher de tous nos ennemis. D'ailleurs, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 13, lève-toi, hein, Éternel, marche à sa rencontre, hein, à la rencontre du lionceau, du lion qui cherche à déchirer. Vous savez, les gens cherchaient tellement à déchirer Jésus, quoi. Ils ont crié, crucifie-le! Quelqu'un qui vous a rien fait de mal, quoi. Donc on voulait vraiment le déchirer. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Qu'est-ce que David dit des gens de ce monde? C'est que ils font le mal, mais ils semblent s'en sortir. David dit, délivre-moi des hommes. Vous savez, à un moment donné, Dieu avait demandé à David de faire un choix de sanction entre de subir la peste, subir la famine, ou alors perdre une guerre, donc être livré entre les mains des hommes. Le Seigneur, et David a dit, je préfère la peste ou la famine. Mais je choisis la peste ou la famine, je ne veux pas de la défaite pour être livré entre les mains des hommes, parce que les hommes sont sans pitié, ils sont méchants. Vous savez, bien aimé, c'est la vérité. Il suffit de suivre la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on comprend ce que peut être ou devenir l'être humain. C'est horrible. Vous savez qu'il y a les Japonais avaient enterré des milliers de Chinois vivants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sans raison. Vivants. Et dans des pays comme la Tchécoslovaquie, il y a ce qu'on appelle les tueurs d'Hitler, les Ersatzgruppen, donc des gens qui étaient là pour fusiller tous les juifs de l'âge de 2 ans jusqu'en haut. Il y a eu des atrocités lors de la Deuxième Guerre mondiale. On se dit, mais c'est vrai, il ne faut pas tomber entre les mains des hommes. ne faut pas tomber entre les mains des hommes. Et parce que l'homme, dès qu'il est saisi par la jalousie, la haine et la colère, il peut faire des choses très, très horribles qui dépassent l'entendement humain. Parce que les démons entrent, ils s'en mêlent. Et l'homme est possédé, il fait des choses horribles. Il a perdu l'humanité, ça existe. Et c'est pourquoi David en parle souvent. Vous savez, il y a des gens qui sont capables d'oublier qu'ils ont des enfants, mais pour avoir raison, ils préfèrent divorcer. Ils ont des enfants en commun, ils ont une maison qu'ils ont construite ensemble. Mais parce qu'il y a un des conjoints qui veut avoir une raison par rapport aux discussions, juste pour avoir raison, la personne est capable d'aller jusqu'à divorcer. Donc elle oublie qu'elle a des enfants, que c'est mieux que la famille soit unie pour que ces enfants-là grandissent bien. C'est ça l'être humain. Quand vous cherchez les raisons parfois du divorce, vous allez vous dire, mais c'est juste pour ça, oui. L'être humain, quand il est pris par les mauvais esprits, ça peut aller très très loin, très très loin. Et le problème, c'est quoi? C'est que souvent, ces méchants-là, ben, ils sont bien. Leurs enfants sont rassasiés. Pendant qu'ils te font souffrir, ils semblent prospérer. Je suis en train de regarder encore la Deuxième Guerre mondiale, tous les épisodes, mais pendant que les Français souffrent, les Anglais souffrent, mais en 1940, Hitler y met le drapeau de l'Allemagne sur la tour Eiffel. La joie, la foule qui l'entoure. Mais on se dit, mais la question qui a été posée souvent dans ces guerres-là, mais Dieu est de quel côté? Dieu est du côté de la justice. Mais ça peut parfois donner l'impression du contraire. Et c'est ce qu'on peut lire là quand il dit, tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. En réalité, bien-aimés, tout ce matériel-là, ce n'est pas le vrai bonheur. C'est pourquoi Dieu se permet de donner ça aux méchants. Ce n'est pas ça le vrai bonheur. Et l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens, c'est de penser que quand ils sont bénis matériellement, Dieu les approuve. Et souvent, beaucoup citent les bénédictions matérielles pour dire, hein, pour se comparer aux autres, pour dire, Dieu est avec moi, voilà, j'ai acheté une maison. Dieu est avec moi, voilà, mon fils est devenu médecin. Dieu est avec moi, voilà, mes affaires réussissent. Attention, Dieu peut nous donner ces choses sans être d'accord avec nous. Il nous donne, mais il n'est pas d'accord. Donc, pensez que la croissance dans la richesse est une approbation divine, c'est faux. Parce que sinon, ces méchants-là seraient approuvés. On dit d'eux qu'ils sont bien, ils laissent des immeubles à leurs enfants. Ils gagnent l'auto. Jackpot, ils sont là. Là, dernièrement, on a dit que, je crois, une chanteuse, Rihanna, elle est devenue milliardaire. On ne sait pas comment, mais elle est devenue milliardaire. Tu dis, mais comment c'est les méchants qui prospèrent? Parce que tout ça, c'est zéro. L'argent, les biens matériels, c'est rien. La preuve, on meurt, on laisse tout ça. Et les gens qui restent après nous, ils en font ce qu'ils veulent. Ils font même les choses que nous, on n'aurait pas voulu qu'ils fassent avec notre argent. Mais puisqu'on est mort, on va faire quoi? Ils font, ils gaspillent. Il y a les avocats qui vont prendre. Tu as bâti pour d'autres personnes. Donc tout ça, ça passe très vite. Maintenant, nous allons parler de la vraie richesse. Le verset 15. Pour moi, Dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Amen. Il dit, que les riches s'enrichissent, que les méchants plutôt s'enrichissent, c'est leur problème. Moi, ma richesse, c'est de voir ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. C'est quoi la face de Dieu? Au fait, ça rejoint ce qui est dit dans le psaume 16. Dernier verset pareil aussi. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de ta vie, de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Vous voyez, même terme. Verset 15 de 17. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Verset 11, psaume 16. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et on avait dit la dernière fois que la face de Dieu, la droite de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand on est dans la logique de sa parole, quand on vit selon sa parole, selon sa volonté, on est dans sa droite, on est devant sa face. On le voit tel qu'il est vraiment, en étudiant, en lisant sa parole, on voit qui il est. Cela nous donne des délices éternels. On se sent bien fort, entouré. On est sûr que Dieu s'occupera de nous. Bien-aimé, comment expliquer que des gens comme Joseph aient pu faire tant d'années en prison tout en restant pur, tout en restant correct? Parce que c'est des gens qui vivaient à la droite de Dieu, devant la face du Seigneur. Et quand tu es devant la face de Dieu, tu as beau être en prison, mais les délices sont éternels. Tu as beau être persécuté, mais quand tu es innocent, tu es devant la face de Dieu, tu es rassasié. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Tu es rassasié. C'est comme ça que des gens peuvent tenir 22 ans. Alan Yuan, il a fait 22 ans en prison en Chine à cause de l'évangile. Comment ces gens-là tiennent? Parce qu'ils cherchent la face de Dieu. Au fait, tu récupères la Bible, tu lis concernant Dieu, concernant sa nature, tu acceptes ça, tu crois en ça, et bien, tu es bien. Au fait, quand tu fais ça, c'est ce que je suis en train de lire, de dire là, tu es comme transporté dans un autre endroit. Tu n'es plus comme les autres humains. Parce que quand Dieu se révèle à toi, ce qui paraît impossible pour les autres devient possible pour toi. Du coup, ça te donne la paix. Tu es heureux. Mais il y a quelqu'un qui peut être millionnaire et mal dormir. Parce qu'il a peur de ce que la bourse va être demain, le lendemain. Mais lorsqu'on a Dieu, on cherche sa face, on mange sa parole, on est transporté, on est soutenu. Les choses de la terre sont en bas, toi tu es en haut. C'est ça la face de Dieu. Dans mon innocence, je me contenterai de ta face, ô Dieu. Ça me suffit. Comme un pasteur avait raconté un jour, il était parti visiter un chrétien qui avait des problèmes aux poumons. Et dans sa chambre d'hôpital, il était branché, donc il avait un poumon d'acier sur lui. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, les poumons d'acier. Il y a d'autres appareils qui ont remplacé. Poumon d'acier, c'était une sorte d'armoire au-dessus de toi pour te permettre de respirer, quoi. Donc, une armoire qui est au-dessus de toi, c'est un gros appareil, quoi, qui te permet de respirer. C'est horrible. Et lui, quand il allait visiter ce chrétien malade, il se disait, mais qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui est dans cet état-là? Il avait envie de fuir, mais arrivé sur place, c'est le chrétien qui l'a fortifié, qui lui a parlé de Dieu. Bien, mais comment expliquer ça? Faites un effort, allez vérifier ce qu'est un poumon d'acier. C'est horrible. Mais cet homme-là était à la droite de Dieu. Les délices sont éternels. Qu'est-ce que Dieu a voulu apprendre aux enfants d'Israël dans le désert? Deutéronome 8, il dit, j'ai voulu vous apprendre pendant 40 ans que le plus important, ce n'est pas le matériel, c'est moi. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. J'ai voulu vous apprendre ça dans la galère du désert pour que vous réalisiez que ma présence, ma parole, ça vaut plus que tout le matériel qu'un humain peut avoir. Parce que tout le matériel qu'on peut avoir, ça ne va pas nous sauver d'une dépression, ça ne va pas nous sauver d'une jalousie, ça ne va pas nous sauver d'une maladie. Mais quand on a la présence de Dieu, on est dans sa volonté, on marche, on lit sa parole est réalité pour nous. On est en paix, on est tranquille. Notre problème, c'est qu'on veut trouver la paix dans la solution matérielle à nos problèmes. Or, Philippiens 4, 6 à 7 nous dit que quand nous exposons à Dieu nos problèmes, il nous répond d'abord par la paix. C'est cette paix-là qui est la face de Dieu. Quand il dit « je me rassasie de son image, donc je me rassasie de la paix, je ne suis plus inquiet, donc on m'a enlevé l'inquiétude, je suis dans une assurance forte au point que tu es bien. Tu es bien. » C'est la vérité, bien-aimé. Et Dieu veut qu'on expérimente ça. C'est que David est en train de dire « dans mon innocence, je verrai ta face. » Donc, c'est la face de Dieu, c'est la plus grande récompense. Mais nous, on veut que Dieu nous donne une grande maison, de beaux enfants. Comme ça, les gens du monde verront vraiment qu'on est béni, quoi. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Mais les vrais hommes spirituels, ils cherchent la face de Dieu. Ils cherchent à être à la droite de Dieu, là où les délices sont éternels. Même toujours dans le psaume 16, on dit, le Seigneur dit, je voyais le Seigneur constamment à ma droite. Voilà, donc être constamment avec Dieu, c'est plus que tout. Et voilà ce qui manque à l'Église d'aujourd'hui. Chercher la face de Dieu, vivre le fait que Dieu peut nous nourrir de sa face, de sa parole. Donc tu lis la parole, tu es émerveillé et tes douleurs s'en vont. C'est très important. Il y a une de nos sœurs qui m'a raconté, elle m'a dit, quand je me suis converti, comme j'avais autrefois consulté des occultistes, et elle a dû passer par beaucoup de temps de délivrance et ça ne finissait jamais. Elle allait à l'église, les gens priaient pour elle, elle rentrait. Ça revenait toujours les mauvais esprits. À un moment donné, elle a pris la Bible, elle a commencé à lire à la maison. Elle a commencé à lire. Elle a dit, la parole m'a délivré. Parce que quand je lisais, je réalisais qui était Dieu, je réalisais ses capacités, je réalisais son amour. En lisant ainsi, les esprits sont partis. 1 Jean 5, 4, la foi qui triomphe, c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Quand tu lis, ça te donne foi en qui est Dieu, et finalement, cette foi-là fait disparaître. Les esprits fuient, les mauvais esprits fuient. Les délices éternels. La gloire de Dieu. Reprends ta parole, la parole de Dieu. Relis. C'est pourquoi c'est écrit, médite jour et nuit. C'est comme ça que tu vas vivre la face de Dieu et tu verras vraiment le vrai bonheur. Et tu aimeras ça. Soyons libérés de la mauvaise éducation qu'on a reçue. C'est 50 dernières années sur le fait de rechercher les choses matérielles pour se sentir béni. C'est faux tout ça. C'est la droite de Dieu qui est bien. C'est la face de Dieu. C'est plus que tout. Et quand tu es dans cette stature-là, dans cette position-là, tu es bien, tu es heureux. C'est ce que David aimait. Il dit, dès le matin, je me rassasie de ton image. Donc je le prends la parole, je réalise, oh, ma vie est assurée. Voilà, ma vie est bien parce que Dieu s'occupe de moi. Il est mon Père. Mais tout ça, ça nous quitte. Dans la vie de tous les jours, tu entends ceci, tu entends cela, tu oublies tout ça, mais quand tu reviens, tu relis la parole. Mais si Dieu est mon Père, donc il me donnera ce dont j'ai besoin, c'est fini. Directement, tu as la paix et tu continues allègrement. Voilà le psaume 17, nous passons au psaume 18. Oui, question ?
Là, c'est question internet. Donc l'internaute te demande, parle du psaume 17, 4. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Par rapport à 1 Corinthiens 13, 5, qui nous dit l'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que ce psaume-là, c'est pas soupçonner le mal?
Ah non, c'est des violents avérés, des gens qui ont l'habitude de faire violent. Par exemple, je peux connaître un pasteur qui est très attaché à l'argent. Ce n'est pas quelque chose que je soupçonne, ça se voit. Ce qu'on soupçonne, c'est quand, par exemple, on a en face de nous un chrétien qui est un ex-voleur. Après, dès que l'argent a disparu dans le coin, on pense à lui. Ça, c'est soupçonné. Mais quelqu'un dont la vie est clairement comme ça, affichée, il tient aux vêtements, il tient à ceci, ça, ce n'est pas du soupçon. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du soupçon, là.
Deuxième question. Nous allons faire l'objet d'attaques à la fois de l'ennemi, car la bête nous fera la guerre et vaincra sur les saints, mais aussi par les humains, puisque même nos proches nous trahiront.
Ah, bien sûr, c'est écrit, Jésus le dit. Donc, dans une famille, les frères trahiront les autres. Mais il faut savoir que ce que nous craignons pour l'avenir, les gens ont déjà vécu tout ça pendant le communisme en URSS. En URSS, pendant Staline, hein, vous étiez à la maison en train de regarder la télé. Maman ne dit rien, papa ne dit rien, le garçon ne dit rien, la fille ne dit rien. Parce qu'on ne sait pas qui va aller dire au service secret que mon père est révolutionnaire. Donc, soit la fille qui va aller dire ma famille est contre-révolutionnaire. Donc, personne ne disait quelque chose parce que tu ne sais pas qui va te vendre. C'est des réalités qui sont déjà vécues dans le passé, dans beaucoup de pays. Donc, et la Bible nous prévient de cela, que dans une maison, donc, il y aura des gens qui vont trahir les autres. Dans l'église, il y aura des gens qui iront dire à la police, d'ailleurs, voilà la tendance du pasteur, il est contre le Macron. Mais bon, nous, on le dit clairement, c'est déjà qu'on est contre les œuvres de Macron, mais on veut son salut. Voilà.
Pourquoi, troisième question, pourquoi dans nos journées, prise par les obligations, on a du mal à rester axé sur Dieu?
Eh bien, c'est pourquoi nous devons, comment dire, nous habituer à sa face. Parce que c'est aussi un goût. Maintenant, quand tu manges de ça pendant un temps, quand il n'y a pas, ça va te manquer. Donc, il faut qu'il y ait des périodes où régulièrement on a mangé à sa face. On a pris les délices éternels qui sont à sa droite. Et quand les préoccupations vont nous saisir, à un moment donné, on ne va plus bien se sentir parce qu'on a déjà habitué notre être à la présence de Dieu, à la face de Dieu. Hein, d'où l'importance quand même de là où hein, on a quand même des programmes, venir à ces programmes, s'habituer à la nourriture spirituelle. Et le jour où il n'y a pas, tu te sens aussi pas bien. Hein? Tu te sens aussi pas bien. Moi, je me souviens une fois, on était parti à Kabour. il y a tellement une pression spirituelle de l'argent là-bas à Kabour que je me sentais perdre la foi, sans que quelqu'un te provoque. C'est dans l'atmosphère comme ça, tu te sens, parce que tu es dans un endroit possédé par les esprits de richesse. Et chaque jour qui passait pendant ces vacances-là, je me sentais comme perdre la foi. Voilà, c'est des réalités. Et le jour où on est revenu, dès que je suis entré dans la salle de l'église, j'ai eu l'impression qu'on m'a donné de l'oxygène à respirer. Donc ce sont des réalités. Donc quand tu t'habitues à la présence de Dieu, quand il n'y en a plus, ça te manque. Voilà, donc d'où l'importance de, quand on a la force, faire le maximum de choses avec Dieu. De sorte que quand ça manquera parce qu'on est des humains, tu rechercheras ça. Mais si quand tu as la force, tu as le temps, tu ne vas pas très loin dans les choses de Dieu, tu te prives de sa présence, mais tu ne seras pas habitué à ça. Du coup, quand ça manquera, tu ne seras pas dans le manque. Voilà, donc il faut vraiment qu'on mange souvent les délices.
L'internaute réplique, dit, donc c'est salutaire.
Qu'est-ce qui est salutaire?
Je crois le manque.
Ah oui, c'est salutaire. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui a soif, hein, qu'il vienne. C'est la soif qui est notre salut dans les choses de Dieu. Parce que la soif va appeler le fleuve d'eau vive. S'il n'y a pas soif, ben, ou faim, même nous ici sur terre, si tu n'as pas soif et faim, tu vas pas avoir envie de manger, tu ne vas pas manger, mais tu mourras quand même puisque tu ne manges pas. Donc d'où la soif et la faim, c'est quelque chose de salutaire.
Par rapport à la réponse que tu as donnée pour le psaume 17, verset 4, par rapport à la réponse, est-ce qu'on doit se méfier des païens qui ont une mauvaise vie, cupides, voleurs?
Être prudent. Voilà, le Seigneur nous a dit d'être prudent par rapport à toutes ces personnes-là. Être prudent. Pas que des païens. Même des chrétiens qui ont une vie charnelle. Parce que c'est souvent par eux que le diable passera. Donc, quand vous voyez que, par exemple, dans des pays comme le Congo, beaucoup de pasteurs et de chantres chrétiens sont empoisonnés. Mais ils sont empoisonnés par qui? Par d'autres chrétiens qui les entourent. Donc, c'est la jungle. C'est-à-dire que quand il faut être prudent, pas seulement par rapport aux païens, mais quand tu as autour de toi des chrétiens qui tiennent à l'argent, qui aiment beaucoup l'argent, qui aiment beaucoup les choses du monde, sache que un jour on lui proposera ces choses-là en échange de te faire du mal. Voilà. Ok. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Voilà. On nous donne le contexte de ce psaume, au premier verset, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit. Voilà. Donc, David a connu une phase de délivrance après plusieurs années de guérilla face à Saül, plusieurs années à être un fugitif. Donc, il y a un moment donné, les choses se sont calmées. Il a été établi roi par les enfants d'Israël. Maintenant, il bénit le Seigneur. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Je m'écris un verset capital à connaître, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Si tu veux être délivré, loue l'Éternel dans tout ce qu'il est de grand, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est capable aussi de faire. Loue, proclame cela. Ce n'est pas une invention. C'est des paroles que tu vas tirer de la Bible. Tout ce qu'on dit de lui, ses exploits. Relance tout ça dans la louange. Reconnais ça dans la louange. Ça va devenir une réalité. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Devant tes ennemis, tu dis, Dieu est plus grand. Il est celui qui avait délivré les enfants d'Israël de Sankhérib. Il est celui qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. Tu es en train de louer le Seigneur. Il est celui qui m'a préservé autrefois. Quand j'étais enfant, j'ai failli mourir, noyer. Il est celui. Tu loues l'Éternel, bien-aimé. Louer l'Éternel, c'est important. Et on est délivré de ses ennemis. Voilà. Ce n'est pas une technique. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu loues et que tu es d'accord avec ce que tu le dis pas dans une logique de flatterie, mais tu le dis parce que c'est la vérité. Même si tu y crois pas, tu ne crois pas trop au début, à force de reconnaître avec le peu de foi que tu as au début, avec la louange, la foi monte. Et quand ça atteint une certaine dimension, tu es délivré de tous tes ennemis. Nous triomphons par la foi. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. D'ailleurs, c'est un psaume, ça va être peut-être le message du jour de demain où on explique qu'on n'a pas besoin de se sentir fort, bien pour prier. Il y a des gens qui prient seulement quand ils ont le goût. Ah non. Ils prient seulement quand ils sont bien. Ah non. Parce que quand ils sont mal, ils incluent Dieu dans leur faiblesse. Ils pensent aussi que Dieu est faible comme eux, ils se sentent faibles. Ah non, c'est pourquoi ils ont du mal à prier parce que ils identifient leur faiblesse à Dieu. Non, Dieu est toujours assis sur le trône. Il est écrit, pendant le déluge, il était sur le trône. Pendant que les gens se noyaient sur terre, lui, il était immuable sur le trône. Il ne change pas. En lui, il n'y a point de changement, ni d'ombre de variation. Donc, tu ne peux pas faire dépendre la louange, la prière de tes états à toi d'âme ou bien de tes états corporels. Non, tu n'es pas bien physiquement. Dis ce que tu peux dire à Dieu selon ton état. Crie à Dieu. Parle. Moi, je dis même, pendant que tu es en train même parfois de pécher, dans ta tête, dis, Seigneur, sors-moi de ça. Seigneur, sors-moi. Je suis entraîné, mais sors-moi de ça. Ne te prive pas de prier sous prétexte que tu n'es pas bien. S'il y a le péché, repens-toi. Mais il faut prier. Il faut crier à Dieu. Le diable veut nous dire, mais tu ne te sens pas bien, il n'y a pas la foi dans ton cœur et tu veux prier. Il me dit, eh ben, écoute, tu es malade, tu es fatigué. Regarde, tes enfants souffrent. Tu veux dire quoi à Dieu? Ouais. Mais bien aimé, c'est le moment au contraire de crier à Dieu. Au fait, dis-toi que la vraie prière, c'est celle qu'on fait lorsqu'on est dans un état contraire à celle de la parole de Dieu, à celui de la parole de Dieu. Lorsqu'on est dans un état comme ça, ou quand on lit la parole, on voit que la parole nous parle de la puissance, de la gloire, mais toi, tu es dans un état de faiblesse. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il faut prier. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Il n'y a pas de honte à voir. Il ne faut pas douter, il faut crier, c'est tout, crie. C'est comme quand on nous pince, tu cries. Eh bien, crie comme ça. Le diable va te dire, mais tu cries 100 fois, ce n'est pas grave, crie à Dieu. N'écoute pas tout ça, bien-aimé. Agissons. Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas ébranler, nous enfermer dans la dépression, dans la tristesse. Parlons à Dieu. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace. Ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me dit, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. On peut s'arrêter là. Donc, nous voyons David présenter une vision de Dieu. Je crois qu'il a dû avoir cette vision-là. La description qu'on trouve depuis le verset 8. Le verset 7 dit, « J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Voilà, après il décrit, « La terre est ébranlée, les fondements des montagnes frémirent, il s'élevait de la fumée dans ses narines. » Donc David a eu une vision certainement où il voyait Dieu se manifester dans sa chorale, dans sa colère et le délivrer de ses ennemis. Il raconte maintenant cette vision-là et ce n'est pas que ça a été physique. Lui, il a vu ça en esprit. Et en quelque sorte, c'est ce que nous devons comprendre aussi, bien-aimés. Que pendant que nous dormons, Dieu agit en notre faveur et nous défend. Vous vous souvenez de cette fille de 15 ans qui a failli être envoûtée par un sorcier dans son village natal et ce sorcier-là l'a abordé et l'a refusé. Ce sorcier-là a essayé d'abord de le mordre, de le piquer comme un serpent. La journée, ça n'a pas marché. Et la nuit, il est venu. Et quand il a voulu entrer là-haut, dans la maison où il y avait la fille, il y avait un mur très, très élevé qui protégeait la maison. Et il s'est dit, je vais aller par-dessus le mur et j'atteindrai cette fille-là. Et quand il a commencé à monter, arrivé au bout du mur, quand il dépasse le mur pour passer de l'autre côté, il est face à face avec un vieillard avec des cheveux blancs, brillant de lumière, certainement, avec les yeux en phare comme les yeux de Jésus dans l'Apocalypse. Il est tombé comme un sac, boum. C'est là que le processus de sa conversion a commencé également. Ces gens-là voient des choses. Nous, on ne voit pas parce que nous, on dort. Mais tous ceux qui cherchent à nous attaquer, ils voient des choses. Et Dieu a permis à David de voir ce que ces gens-là voient. Le Seigneur, avec sa voix, quand ça parle, il y a la grêle et le charbon de feu. Et il y a le feu qui sort de ses narines. Donc, le Seigneur, David a vu cela. Et il s'en est réjoui. Il a dit, mais il a dispersé tous mes ennemis. Et donc, on passe au verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est-à-dire que quand quelque chose est éprouvé, ça veut dire que on l'a essayé et ça a marché. Par exemple, quand on vient de finir la fabrication d'un véhicule, on fait des tests, des preuves pour voir si ça va tenir. On essaie de mettre ça en grande vitesse, on tourne. Il y a des machines qui éprouvent le véhicule, l'appareil ou autre chose. Voilà. Et si ça résiste, donc on peut mettre ça en circulation, ça va bien fonctionner. C'est la même chose qui est dit ici. La parole de Dieu est éprouvée, c'est-à-dire qu'on a déjà essayé, on a vu son efficacité. Voilà. Il est un bouclier, Dieu, pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. C'est normal que David parle de ces choses profondes. Vous savez, cette histoire-là des lieux élevés, c'est quelque chose de profond. Et David en parle parce qu'il est dans la profondeur, là, il est dans la vision spirituelle où il voit la grandeur de Dieu dans les cieux. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sur moi mes adversaires. Donc David passe du spirituel, de l'invisible, au physique. Donc il veut montrer par là qu'en réalité sa force dans les guerres, ça vient de l'invisible, ça vient de victoires que Dieu remporte d'abord au ciel. Ça rejoint ce que le Seigneur a dit aux apôtres, ce que vous lirez sur la terre aurait été déjà lié au ciel. Voilà. Le ciel et la terre sont liés. Apocalypse 12 nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, donc pendant qu'il y avait guerre dans le ciel. Donc le ciel et la terre sont liés et David explique que ces victoires viennent du ciel. Voilà. Je les bois comme la poussière, verset 41. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujetti le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 19. Oui, question.
Au verset 12, Il dit que l'Éternel ne fait des ténèbres sa retraite. L'Éternel fait des ténèbres sa retraite. Pourtant, la Bible nous dit ailleurs que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Comment expliquer ce paradoxe?
Oui, donc lui, il est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais on parle de la vision là de David qui voit Dieu matérialisé. Donc, et quand il est matérialisé, il y a comme une limite physique. Et qu'est-ce qui entoure? Vous savez, c'est comme les halos de lumière. Qu'est-ce qui entoure? Il y a les ténèbres qui sont comme un vêtement. Voilà. Autour de cette lumière-là. C'est dans ce sens-là. C'est bon? Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Beaucoup connaissent ce verset-là. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? La nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire, le jour suivant confirme ce qui s'est passé le jour précédent. Le jour suivant est la continuité du jour précédent. Donc, si tu pensais que c'était fini aujourd'hui, le soleil ne paraîtra plus, dans 10 heures, tu vas revoir encore le soleil. Donc, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. David dit, la création est un langage clair. Chaque jour est là pour raconter les anciens jours, comme continuité, chaque nuit, continuité des nuits précédentes. Ce langage-là, il est clair, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas de paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est-à-dire que même les gens en Amazonie, ils vivent la nuit et le jour. Cette succession-là leur parle. Les gens dans la jungle de Birmanie, ils vivent ça. Il voit le soleil briller, la lune venir après. Cette succession-là est un langage de Dieu qui doit parler à toute l'humanité. Voilà. Verset 5, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Donc David passe de la création à la parole de Dieu. Il montre combien la création manifeste la gloire de Dieu. Il dit maintenant, celui qui a créé tout ça, ben celui qui a parlé aussi en utilisant les Écritures. Donc, dans les Écritures, il parle, la loi de l'Éternel est parfaite. Il dit, la même chose que Dieu fait à travers une certaine gloire du soleil, ben, la parole peut nourrir l'âme comme ça, faire briller l'âme. Voilà. Et maintenant, il vante la parole de Dieu et il montre combien lorsque on obéit à cette parole, lorsqu'on croit à cette parole, on est en quelque sorte comme brillant comme le soleil. Voilà. Donc il fait ce parallèle là pour dire le même Dieu qui fait briller le soleil, qui instruit les gens par le jour et la nuit, il instruit les gens aussi par la parole. Vraiment, la parole est précieuse. Hein. Donc, vraiment, on saurait le dire plus fort que cela. C'est vraiment précieux. Il faut vraiment manger ça chaque jour, vivre avec ça chaque jour. Voilà. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous passons au psaume 20. Psaume 20, il y a question ?
Ok. Question hors sujet, je poserai okay, ça à
d'accord,
la fin.
À la fin. Ok, psaume 20. Prière pour le roi. Hein, il est écrit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qui te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Voilà, donc c'est extraordinaire. Comment quelqu'un qui a des chevaux, quelqu'un qui a une armée, mais il dit que c'est les autres qui s'appuient sur les chevaux et les armées. Lui s'appuie sur Dieu. Donner 1 million à un chrétien, on va voir s'il va continuer à s'appuyer sur Dieu. Beaucoup vont maintenant chercher ou mettre ça dans la bourse. C'est ce qu'on voit. Connaître Dieu, c'est capital. C'est capital. David connaissait Dieu. Et quand on connaît Dieu, on connaît aussi l'homme. On sait qu'il est faible, il est petit, il n'est rien. Qu'il y ait des chevaux, qu'il y ait une armée, c'est rien. Et on se confie en Dieu. Je pense que certains ont reconnu une certaine ressemblance avec un hymne, non ? D'un pays. Il y a l'hymne d'un pays qui s'appelle un pays qui nous est voisin presque. Voilà. Donc, le pasteur nous a donné, donc c'est l'hymne de l'Angleterre, God Save the Queen. C'est ça, prière pour le roi. Donc, c'est un peu tiré, l'hymne de l'Angleterre est un peu tiré du psaume 20. Donc, on prie pour le roi. Et bien aimé, c'est important. C'est important. Je reviens au livre de Lévitique où on nous a montré que lorsque le sacrificateur péchait, le souverain sacrificateur péchait, c'est comme si tout le peuple péchait. Et lorsque le peuple péchait, c'était comme si lui, le souverain sacrificateur, péchait également. Et c'est à peu près le même principe avec le roi. Donc, lorsque le roi tombe, c'est comme si tout le peuple tombait. Et lorsque le peuple tombe, c'est comme si le roi tombait. Donc, le roi doit prier pour le peuple et le peuple doit prier pour le roi. Donc, c'est curieux que ça vienne de David lui-même. Pour moi, c'est la preuve que ça vient de Dieu et que lui, en tant que serviteur de Dieu, il ne peut pas garder ça parce que ça le concerne lui. Donc, il exprime ce qui vient de Dieu. Il ne joue pas à la fausse modestie en gardant ça. Non, c'est Dieu qui inspire David de dire à son peuple de prier pour lui. Il faut prier pour le roi. Parce que s'il tombe, tout le reste aussi tombe. C'est ça la réalité. Il faut prier pour les responsables. S'il tombe, eh bien, il risque d'entraîner tout le reste. Il faut beaucoup prier et c'est ce que veut nous montrer, ce que nous montre ce psaume. Et il faut aussi qu'il y ait une relation d'amour, d'unité et de support mutuel entre le responsable et ceux dont il est responsable. Parce que ce psaume-là, on sent l'amour du peuple pour le roi dans le psaume. Voilà. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Donc il y a un amour, il y a un amour pour le roi. Et les enfants doivent avoir un amour pour leur papa, leur maman, prier pour eux. C'est important de prier pour chaque responsable quand on a des responsables. C'est important. Parce que la vraie protection ne vient que de Dieu. Voilà. On peut mettre des murs, des armées, des gardes du corps, c'est rien. La vraie protection vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous prendre comme fardeau de prier régulièrement pour les responsables. Ce ne sont que des humains, quoi. Ils ont besoin de prière pour tenir ferme avec toutes les attaques qu'ils subissent que les autres ne voient pas. Ils subissent beaucoup d'attaques parce que le principe du monde spirituel, c'est frapper l'autorité, comme ça on fait couler tout le bateau. C'est comme ça le principe du monde spirituel. Frapper le berger et disperser le troupeau. C'est comme ça. Donc ils subissent beaucoup, beaucoup de choses et donc les autres doivent avoir le réflexe de prier pour eux. Et nous passons pour clôturer au psaume 21. Oui. Non, on continue.
Tu as répondu à la question, en fait.
Ok, d'accord. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Amen. Donc, c'est quand on est responsable, on doit comprendre que tout vient de Dieu. Voilà, on doit se confier en Dieu. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Donc on finit par célébrer Dieu qui soutient le roi, qui protège le roi. Il y a une identification, comme on a dit dans Lévitique, entre le responsable et les gens dont il est responsable. Il doit y avoir une communion privée de jalousie. Parce que je peux vous dire, bien aimé, que le rôle de parent, de professeur, de responsable, ce n'est pas facile. Voilà. L'enfant tel qu'il a là, il a 12 ans, 13 ans, il ne sait même pas c'est quoi la facture d'électricité. Il ne sait pas. Il mange, il dort, il va à l'école et il fait parfois des exigences. Mais le parent doit réfléchir. Voilà. La rentrée arrive. Il y a les livres. Il y a ceci. L'enfant a une toux qui traîne. Voilà la maman qui devient triste. L'enfant lui-même est normal. Mais tout ça, bien-aimé, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on doit prier pour les responsables. Il y a des réalités qu'ils vivent, des loups qu'ils combattent, les autres ne voient pas. Et ne pas jalouser, se dire, ah, mais on lui a donné le coca en premier. Oh, mais c'est... Vous savez, dans certains pays, là où il y a le parking handicapé, c'est écrit, si tu me mets à ta place, tu prends mon handicap. Voilà. Donc, d'accord, tu veux avoir le coca en premier, ben, prends aussi la responsabilité. Prépare les prédications, va visiter les gens, réponds au mal par le bien tout le temps, accepte les critiques. Il y a des chrétiens, on les critique juste peut-être une fois tous les deux ans. Mais c'est comme s'il y a un earthquake, c'est comme s'il y a un tremblement de terre. Maintenant, les responsables, on les critique tous les jours. Tous les jours. Donc, ce n'est pas facile. Donc, c'est pas, et c'est pourquoi il faut qu'il y ait cette compréhension-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les païens, eux, ils ont compris ça, quoi. Vous voyez que les Américains considèrent que si on touche à leur président, on a tué la nation. Donc, ils lui mettent une protection qui coûte des millions, parce qu'ils savent que si un étranger arrive à l'éliminer, c'est comme s'il a vaincu tout le pays. C'est ça la réalité, parce que c'est spirituel, au fait, c'est spirituel. Et Lévitique nous montre ce principe-là, d'où le psaume 21, ce n'est pas un psaume de vantardise pour David, non, il décrit des réalités spirituelles. Le roi doit prospérer et entraîner la prospérité en même temps de tout le monde. Voilà quoi. Donc, dans tout ça, nous ne sommes pas en train de parler des dictateurs et des mauvais rois, des mauvais responsables. On parle de ce qui est normal, ce qui doit se faire normalement. Voilà. Que Dieu soit béni. On s'arrête là. On va entendre les questions hors sujet. Oui. Enfin, hors.
Oui. Donc, il y avait une question internet qui dit. Pouvez-vous donner plus de précisions sur le divorce ? Dans quel cas cela est permis ? Merci.
Le divorce, vaut mieux qu'on retienne que ce n'est pas permis. Voilà, c'est tout. Moi, ce n'est pas permis. Maintenant, il y a un cas exceptionnel. Je préfère traiter le cas d'une manière concrète si ça s'oppose. Mais on va dire une phrase ici. Il y en a qui vont saisir ça pour chercher le divorce. Donc, je préfère pas. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Hein. On a vu dans le psaume 17... la face de Dieu, les délices à la droite de Dieu, à travers sa parole. Voilà, c'est extraordinaire d'être dans les délices de la parole de Dieu, de la foi. La foi. Et dans le psaume 18, nous avons vu la droite triomphante de Dieu, la gloire triomphante de Dieu, Dieu qui agit dans sa gloire. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là dans le physique, lui, dans le spirituel, il fait des ravages pour nous. Voilà. C'est ce que David a vu dans le psaume 18. Et dans le psaume 19, 20 à 21, on nous parle du soutien de Dieu à son oint, à son responsable qu'il a établi. Et il y a une exhortation à prier Dieu et à louer Dieu pour son soutien qu'il apporte aux responsables, parce que la vie de tous est liée aussi à sa vie. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc nous allons prier que Dieu nous aide à prier pour les responsables. Nous allons prier pour les responsables. Nous allons aussi prier également pour que Dieu nous apprenne vraiment à chercher sa face tout le temps, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à chercher ta face tout le temps, à être dans les délices de ta parole, chaque matin, chaque soir, pendant la journée, à naviguer dans les lieux élevés de ta parole, de la louange, de l'adoration et du sacrifice. Nous voulons expérimenter ta gloire, Seigneur. Exauce-nous. Que nous apprenions que ta parole, c'est plus que de l'or. Lorsque vraiment nous mettons foi en tout ce qui est écrit, nous sommes plus riches que le plus riche de tous les hommes. Seigneur, nous venons prier également que tu nous aides à prier pour nos responsables, pour les parents, pour ceux qui dirigent aussi nos pays. Que nous ne soyons pas jaloux, que nous ne soyons pas dans la contestation inutile, mais que nous soyons dans la construction, dans le soutien, dans le nom de Jésus-Christ. Suscite des intercesseurs pour prier pour les responsables, et nous prions également concrètement pour tous ces responsables-là, que tu les fortifies, que tes anges montent la garde autour d'eux et que tu leur donnes la sagesse pour faire ton œuvre, d'abord pour ta gloire, ensuite pour le salut des autres. Merci encore pour ta parole. Merci pour David, ton serviteur, qui a été fidèle dans la transmission des révélations. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.